Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci.
Magnifique journée pour pratiquer. Les conditions idéales. Puis entre autres, on a la chance d'avoir un refuge, hein, d'avoir un toit, d'avoir des vêtements. Alors il peut y avoir le vent, la tempête à l'extérieur, la pluie. Et nous, on est protégés, là. Ça, c'est très précieux. Et parfois, il peut y avoir aussi la tempête à l'intérieur, évidemment. Et pour ça aussi, on est protégé, on peut être protégé par la pratique, la bienveillance, alors, beaucoup de douceur envers soi-même, la capacité de s'accompagner. Et de revenir à quelque chose de très, 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 très simple. Hein? Dans les enseignements, ce qu'on appelle souvent le premier fondement de l'attention, donc sur quoi se pose l'attention, peut se fonder ou se reposer l'attention, c'est le corps, l'expérience sensorielle. Alors quand les choses deviennent un peu compliquées, là, qu'est-ce qui va arriver, incertitude, ceci, cela, doute, etc., c'est toujours un très bon choix de revenir à quelque chose de très, très non spéculatif, on pourrait dire. Qu'est-ce qui va arriver? C'est de la spéculation. Qu'est-ce que je vaux? C'est de la spéculation. Comment je me compare à l'autre, ou est-ce qu'il aurait pu avoir lieu, etc., tout ça. Et donc, revenir vers quelque chose qui n'est pas spéculatif, comme le chaud, le froid, le toucher. Cette image du Bouddha là, dont je parlais, je pense que... Non, mes yeux ne sont pas très bons, mais là, au mur, la grande statue, je pense que ça, c'est Prajnaparamita, la mère de tous les Bouddhas, la perfection de la sagesse, je crois. Je ne suis pas absolument certain. Prajnaparamita, si c'est toi, peux-tu m'envoyer un signe? Ah, je vais trouver un petit truc, là. Ça ne marche plus. Je vais m'approcher pour lui parler. Prajnaparamita, si c'est toi... Peux-tu m'envoyer un signe? En fait, ce Bouddha qui est là touche le sol de sa main droite. Et donc, c'est ça, quand ça devient un peu compliqué, complexe, c'est toujours une très bonne idée de revenir à quelque chose de très, 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 très simple. Le pas, le souffle, ouvrir les yeux, puis juste recevoir la lumière, le paysage, l'espace. Alors ça, même si ça se passe, ça va très bien, c'est un excellent choix. Il n'y a jamais de faute à être avec quelque chose d'aussi palpable, direct que ça. Le Bouddha, ben, c'est ça, là où on le voit, c'est peut-être la seconde avant ou après l'éveil, là, mais c'est ce moment où il est accablé par le doute. Tu n'y arriveras jamais, pour qui tu te prends, etc. Et c'est ce qu'il fait, il touche le sol. Hein. Alors ça, c'est une interprétation là, de ce moment-là. Il touche le sol. Ou peut-être qu'il revient à son intention aussi. Il prend la terre comme témoin de sa très belle intention de développer la sagesse. Et donc, quelque chose comme ça. Parce que c'est ça, je pense, j'en parlais hier ou avant-hier, de ce qu'on appelle le « first insight », là, cette première compréhension profonde, je pense qu'elle s'approfondit là, avec les jours, avec les heures. Je pense qu'on découvre, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais C'est très possible qu'on découvre là à quel point on est mu par l'agitation, hein? À quel point ça a beaucoup de choses à dire, qui semblent très importantes. Mais en fait, c'est une forme juste d'agitation de base là, qui se manifeste par le doute, le ressassement, l'anticipation, les opinions, la comparaison. Ça a 100 000 expressions, mais c'est seulement une agitation de base, là. Et donc ici, ben, c'est ça, on cultive le calme dans la tempête intérieure, avec humilité, courage, persévérance. C'est des qualités très fortes qu'on développe ici. Et puisqu'on a parlé des cinq, bon, moi je les appelle les rivières de l'existence ou de l'expérience là, humaine, juste pour revenir, juste un petit peu sur ce cinquième aspect de notre expérience, qui est la conscience, parce que ça pourrait être, si les conditions sont bonnes, si ça nous intéresse, si ça nous parle, si ça nous intrigue, ça pourrait être une excellente matinée pour étudier ça, ou peut-être que ça ne sera pas là, puis qu'à un moment donné, ça apparaîtra au détour de... Ouais. D'une assise ou d'une marche ou d'une tisane. Et donc cette activité de la conscience, ce surgissement, il y a donc le surgissement des sensations constamment, ça a lieu, le surgissement du plaisir, des plaisirs, son absence, leur absence, ça a lieu, le surgissement du sens, ça a lieu. Là, je parle, et puis si vous n'entendez pas, je parle, puis le sens surgit. Il y a une reconnaissance du mot, des sens, de quelque chose. Puis il y a des intentions. Je pense que je peux en voir quelques-unes là, à travers le langage corporel, l'intention d'entendre, de considérer, de comprendre. Alors, il y a toutes ces choses-là qui surgissent. Peut-être c'est les cinq fontaines. OK, je viens de changer. Pour quelques années qui viennent, vous étiez là à ce moment. OK, important. Les cinq fontaines. Et il y a celle de la conscience. Alors la conscience, c'est le dernier des cinq agrégats parce que c'est peut-être le plus subtil. Il y a très peu de caractéristiques, hein? Le monde physique a plus de caractéristiques. C'est lourd, c'est léger, ça presse, ça pousse, c'est spacieux, c'est contracté, etc. Le plaisir des plaisirs aussi, c'est un peu plus palpable, hein, comme ça. Puis là, on arrive, c'est de plus en plus transparent. La conscience a très peu de caractéristiques. Hein. Elle révèle, c'est tout ce qu'elle fait, elle révèle ce qui est. Elle révèle un son, elle révèle une douleur, elle révèle une pensée, une émotion. Elle ne fait qu'éclairer. Bon, c'est des termes un peu... C'est dur d'éclairer. C'est un terme physique, mais ça nous permet un peu de pointer vers quelque chose. Alors, la conscience, c'est ce qui soit reçoit ou illumine, révèle. Et donc, c'est un petit peu plus subtil. C'est pas le picotement. Mais ce qui en fait l'expérience ou ce qui ne... Et donc aujourd'hui, peut-être qu'à un certain moment, les conditions seront bonnes pour s'intéresser à ceci. Donc, pas le souffle, mais ce qui le connaît. Qui ne peut être connu qu'à travers le souffle, qu'à travers la chose qu'il révèle. Comme la lumière, peut-être, des images physiques, mais... La lumière peut être révélée seulement à travers ce qu'elle rencontre, me dit-on. Alors, de la lumière comme ça, on ne saurait pas, mais oups, parce qu'il y a un obstacle ou quelque chose. Quoi. Tout à coup, ça révèle. Alors, c'est plus subtil. En même temps, c'est constamment là. C'est d'une évidence incroyable. C'est ça, être un être humain. C'est être touché par... Si j'utilise ce verbe-là, toucher. Donc la cognition, Puis c'est quelque chose auquel on peut facilement s'identifier. Donc, je fais l'expérience. Et puis, on peut aller chercher ça. Alors, toute cette histoire d'identification, je veux qu'on fasse attention parce qu'on pourrait penser, ah, faut que je prenne les sensations personnelles, faut pas que je prenne le plaisir ou le déplaisir personnel, faut pas que je me l'approprie. Non, non, c'est très bien. On part exactement avec les perceptions immédiates. C'est ça, la pleine conscience. Elle s'intéresse à ce qui est. Alors, ah oui, ça m'apparaît vraiment que c'est à moi que ça arrive, ou en moi. Excellent. L'idée, c'est de s'intéresser à ceci. Ah, voici comment ça apparaît, clairement. Puis peut-être qu'à un moment, hop, ça va apparaître un peu différemment. On peut jouer avec ça, avec la note mentale. C'est-à-dire, on en a parlé il y a quelques jours, ou c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà très bien, mais juste de nommer l'expérience. La pluie. La pluie, entendre, ressentir, ah, le calme, le calme. Alors vous voyez là-dedans, déjà il n'y a pas de « je », hein? Il n'y a pas de « j'entends la pluie ». On va vers la plus simple expression, on va vers les éléments constitutifs, pas vers l'interprétation, mais quelque chose de très simple, entendre, entendre. Une façon de le faire pour faire ressortir ceci, pour jouer avec ceci, si vous voulez. Puis on va le faire dans quelques secondes, minutes. C'est de, peut-être à l'aide d'une petite phrase très courte, quelque chose comme en français, ça donnerait comme « Les sons sont entendus. Le silence est connu. » Voyez-vous, là-dedans, comme il n'y a pas de « je », hein? Puis peut-être qu'on pourrait découvrir que ça tient la route très bien. Ah, une sensation est connue. Oui, c'est vrai que la sensation est connue. Ça fait ressortir le côté naturel de la sensation et de la connaissance, de la conscience, de la sensation naturelle, un peu opposée à « je connais ». Il y a quelque chose de très naturel. La conscience a lieu d'elle-même. Un son apparaît, la conscience du son. Très naturel. Il n'y a pas de « ok, je vais entendre le son ». Il n'y a pas de ça. Il y a juste quelque chose de très naturel qui a lieu. La conscience d'une pensée ou d'une humeur. La mauvaise humeur est connue. Ou la bonne humeur. L'irritation est présente. Elle est connue. C'est une façon un peu de dégager. Là. Donc, ce n'est pas de la dissociation, ce serait autre chose, la dissociation. Ça, puis il y a beaucoup de proximité là-dedans. On est au cœur des choses, mais sans, en relâchant un peu ou en explorant. Puis si quelque chose fait, non, c'est moi qui connais. Excellent, why not? On veut juste prendre conscience de ça, de comment les choses sont perçues, ressenties. Comment les choses apparaissent. Ouais. OK. Si ça résonne, si je comprends rien là-dedans, pas de souci. Mais je pense que ça vaut la peine de nommer ça, d'explorer ça, parce que là, ça pourrait... Il y a peut-être quelque chose, une petite craque par laquelle... La sagesse pourrait rentrer, là. Un petit peu de liberté peut-être à gagner là-dedans. OK. Alors, allons-y. Ben, on y est déjà. Donc, surtout, c'est pas nécessaire de se formaliser, là, ou de se rigidifier, ou de... Donc, on n'a rien à faire, rien à produire. Et les éléments sont déjà tout fournis naturellement. Il y a déjà les sensations, les sons, le silence, l'assise, la respiration. Toutes ces choses-là sont déjà là. Même la conscience, on n'a pas à la produire. C'est quelque chose de très naturel comme tout le reste. Le chaud, le froid, la conscience. confort ou l'inconfort. Ces choses-là vont et viennent très naturellement. Donc, il peut y avoir cette prise de conscience aussi naturelle qu'il y a un corps. Ah, tiens, il y a un corps vivant, sensible. Il est connu. Parfois, j'en parlais hier, on a l'impression que la conscience est quelque chose de solide et de permanent qui est derrière les yeux. C'est possible que ce soit comme ça pour vous, peut-être pas. Mais pour certaines personnes, c'est un peu comme ça, comme s'il y avait une sorte de témoin, d'observateur dans la noix de coco. Si vous voulez jouer un peu avec ça, on pourrait s'imaginer mettre cette conscience, cette intelligence, cette sensibilité dans un petit ascenseur et laisser l'ascenseur descendre dans le cœur, dans la poitrine, juste si vous voulez. Et faire l'expérience du monde à partir de là, laisser l'intelligence, conscience, sensibilité, faire l'expérience du monde à partir de là. De la poitrine. C'est possible que déjà, ça soit un peu moins discursif quand ça descend un peu dans le corps, dans le cœur. On pourrait même laisser l'ascenseur descendre, si on veut, vers le ventre, dans le ventre. Et faire l'expérience du monde à partir de là. Laisser le ventre, connaître le ventre. Connaître le monde. Et peut-être même laisser cette sensibilité, cette intelligence, cette conscience se répandre, infuser tout le corps. Laisser le bas du corps connaître le bas du corps. Laisser les bras connaître les bras. Laisser même les sons connaître les sons. Laisser le plaisir connaître le plaisir. Le déplaisir connaître le déplaisir. Si c'est aidant, on peut utiliser la note mentale. Les sons sont entendus. Une sensation est connue. L'agitation est connue, le calme est connu. Voyez voir si ça semble être une bonne façon de décrire la situation. La respiration est connue. Les pensées sont connues. Alors, pas les pensées elles-mêmes, mais ce qui en fait l'expérience. La joie ou l'inquiétude est connue. Alors, pas la joie, pas l'inquiétude, mais ce qui en fait l'expérience. S'il se passe peu de choses, la neutralité est connue. Ou s'il se passe beaucoup de choses, l'intensité est connue. une autre façon d'explorer ceci qui pourrait vous intéresser ou non. C'est en utilisant une question telle que « Qui médite ?» On ne veut pas répondre, encore une fois, avec des mots, mais avec de l'attention. C'est une façon de cultiver peut-être une curiosité pointée vers cet aspect de l'expérience. Qu'est-ce qui médite? Qui médite? Qui est conscient? Qu'est-ce qui est conscient? Qui respire? Si c'est confondant, agitant, désagréable, énervant, on revient à quelque chose de très simple, comme le Bouddha qui touche le sol. On revient au son, aux sensations, à la respiration, d'excellents choix, d'excellents objets de méditation. Qui entend? Qu'est-ce qui entend? Merci. Alors, c'est possible que cette recherche-là ne nous interpelle pas du tout. Pas de souci, pas de problème, excellent. On passe à autre chose, on revient vers ce qui résonne. Et c'est possible que ça nous intéresse. Et moi, je trouve que c'est beau qu'on ait mené l'investigation si loin, là, que quelqu'un se soit dit, bon, je vais lâcher un peu la liste de choses à faire et de projets et de... Je vais là, est-ce que je vais y arriver, etc. Puis je vais aller voir de qui est ce jeu dont il s'agit constamment. Qui est là? Qu'est-ce que c'est cette chose? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière le magicien d'Oz? Qu'est-ce qui se cache? Mais c'est sûr que pour faire cette investigation, je pense que ça prend stabilité d'esprit, il faut que certaines qualités soient présentes, une dose de calme, d'unification de l'esprit ou concentration, d'équanimité, de curiosité. Il faut que ces facteurs mentaux soient réunis là, pour que l'esprit ait l'intérêt, puis aussi puisse demeurer. Là, ça prend quelque chose qui est un peu comme un laser, on pourrait comparer, qui reste, qui demeure, qui est intrigué par. Sinon, on est vite happé par. Les pensées conventionnelles, les façons, les a priori. Là. Et c'est ça, peut-être que c'est bien de... Ah oui, les conditions sont bonnes ou non. Il n'y a pas cette... c'est bien, mais c'est bien de savoir. On est dans un laboratoire de recherche, puis c'est bien de voir, ah oui, la recherche peut aller aussi loin que ça. Bon, là, je n'ai pas les instruments ce matin. Ou peut-être que oui. Et évidemment, ça va aller et venir, là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, quelle est la question? Il ne peut pas y avoir de questions. Il me semble que ça soulève quelques questions. Peut-être pas. Mais en tout cas, ce serait bien d'entendre là, comment se formule la question. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans? Laissez-moi poser la question alors. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans ou pas? Si je vois 20, 25, 22 têtes qui font comme ça, moi, je peux essayer de passer à quelque chose d'autre. Je suis pas sûr que je sois... Je pense que je suis très attaché à ça. Ça me semble important. Oui, Gilles.
Qu'est-ce qui reste de stable de cet être si tout est fibreux, éphémère, partant? Inconstitué, enfin, conditionné. Qu'est-ce oui. qui reste de stable de cet être, même l'attention?
Non, l'attention, on peut voir assez facilement qu'elle va et vient, hein, qu'elle est très instable, l'attention, elle est intermittente, elle est parfois elle est stabilisée pendant quelques secondes, dans le meilleur des cas. Cette semaine. Oui, alors c'est une grande question. C'est sûr que dans les enseignements, il y a la seule chose qui est permanente et stable, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Alors, c'est la fin de la confusion, c'est quand on va déraciner la méprise. Parfois, la méprise, ça tombe un peu, hein, quand l'esprit devient concentré. Tout à coup, il n'y a que le calme, peut-être la joie, quelque chose comme ça. Pendant quelques moments, il peut y avoir... D'ailleurs, Joseph parle de ça comme ceci. Il dit, quand on vient faire à la retraite, voyez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans. On vient à la retraite, là, on met comme valeur principale la pleine conscience. Alors là, on fait un effort, un petit effort. Oui, je vais être en pleine conscience. Je vais arrêter de d'être la ligne de temps, là-bas, plus tard, jadis, etc. Je vais faire cet effort d'être en pleine conscience. C'est la valeur principale. Et puis là, tout à coup, ça glisse hein, vers le passé. Ah oui, je me souviens, la pleine conscience se rappelle d'elle-même ou du moment présent. Et puis là, ça repart de l'autre côté. Puis après, ça part par là, puis ça part par là. Puis on fait cet effort-là, puis c'est là où le doute peut venir. Mais pourquoi? Finalement, ça ne fonctionne pas du tout. Ça reglisse tout le temps. Dès que je me mets là, tout à coup, « Ah, si j'avais commencé plus tôt, je serais rendu plus loin. Ah, le Tibétain, doit, eux, ça doit être plus facile avec eux. On doit aller direct au cœur des choses. » etc. Puis on remet la pleine conscience, on remet la pleine conscience, et on continue, on continue. Et Joseph parle de ça, il y a un moment où il peut y avoir le retournement du bol. Et là, tout à coup, la pleine conscience devient établie. Peut-être pendant quelques moments. Puis on peut l'avoir vécu, là. Ça peut être dans le repas, dans la marche autour de l'étang, assis ici, tout à coup. Ça devient une façon d'être. Il n'y a plus cette notion d'effort. Hein. Tout à coup, c'est établi. Et là, on se dit, ah, ben là, il y a quelque chose d'établi. Il y a une présence. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas trop de pensée, de toute façon. Il y a juste une présence très simple. Presque rien à dire là-dessus. C'est juste, on est là. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, ben, c'est ça. Ça va peut-être repartir, mais oups, ça va revenir assez vite. Il n'y aura plus la notion d'effort. Ça va être un peu une façon. Tout à coup, on va être attiré vers quelque chose. Puis là, ouais, on va être éveillé à nouveau à être là, comme ça. Alors, ça revient beaucoup plus facilement. Et là-dedans, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent plus rentrer momentanément. Quand le bol est retourné, là, il n'y a plus le désir d'autre chose. Parce qu'on est ici, c'est amplement. Puis on peut même être ici avec une douleur. Tout à coup, on est ici. Il n'y a pas l'idée qu'autre chose serait mieux. Il n'y a pas cette agitation de l'avidité. Il n'y a pas l'agitation non plus de l'aversion. Il n'y a pas l'esprit qui crée un truc de « ça devrait pas avoir lieu », tout ça, il y a juste la rencontre avec ce qui est là. Ni désir, ni aversion. Momentanément, le bol s'est retourné. Il n'y a pas de manque d'énergie, de « ah non, la pleine conscience, j'en peux plus ». Il n'y a pas de ça, hein? Il y a juste « on est là ». On manque pas d'énergie pour être là, puis il n'y a pas trop d'énergie non plus. Il y a juste le contact, la rencontre. C'est très, très simple. Puis il n'y a pas de doute non plus, est-ce que je le fais bien, etc. Il n'y a pas de ça, il y a juste voici le pas, le froid, le vent sur le visage. Juste cette présence, la douleur, ce truc qui est dans l'estomac, le gonflement. Et juste ça, la rencontre avec ça. Dans ce moment-là, il y a une sorte de stabilité, mais elle est momentanée. Elle est momentanée. Parce qu'il y a eu un moment où tout à coup, ça va se désagréger. Pardon. Et là, tout à coup, oops, les sons vont nous énerver à nouveau. Avant, peut-être ça toussait, ça bougeait un peu dans la salle, mais c'était complètement intégré dans la méditation, ça faisait partie. Il n'y avait pas de positionnement par rapport à ça. Il y avait juste la vie qui fait son truc. Puis tout à coup, oops, on redevient un peu impatient, un peu j'ai perdu, il y a quelque chose que j'ai perdu, que je voudrais revoir. Et là, on est revenu dans notre façon habituelle de vivre. Alors, ça, c'est momentané. Mais c'est très bien, c'est une très belle protection de l'esprit. L'esprit, dans ce moment-là, est concentré. Il est unifié autour de l'objet, de la chose qui est connue, le souffle, quoi que ce soit d'autre. Et donc, nous, on explore ça un peu ici. Mais il y a autre chose qui s'appelle l'éveil. Et là, ce n'est pas momentané. Il y a une compréhension profonde de la nature impermanente, impersonnelle, la sagesse de la non-possession. Et c'est clarifié que c'est impossible de posséder, que c'est passager. Et donc, on peut retirer la méprise. Et ça, c'est la fin de l'avidité, de la haine et de la confusion. Et ça, le Bouddha dit, c'est très satisfaisant. C'est permanent quand c'est fait. Puis c'est quelque chose, de toute façon, qui ne peut pas être possédé par quelqu'un. Alors, c'est permanent, c'est satisfaisant, mais ça n'appartient pas à quelqu'un. C'est quelque chose de naturel, mais qui est accessible. Pas facile, mais possible. Et là, il y a stabilité, il y a Mais c'est beau de voir, hein? C'est quelque chose que qu'on abandonne, auquel on renonce par le discernement, la sagesse. Alors, c'est pas quelque chose qui s'ajoute, l'éveil. C'est la fin de la méprise. C'est quelque chose qui est retiré. Et donc, c'est pas construit. Si c'était construit, ça se déconstruirait. Mais là, c'est juste quelque chose qu'on retire, et là, il reste. Et donc, il y a la permanence, la satisfaction possible. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Mais là, après, il faut aller voir pour soi-même. Parce que ça reste de la théorie. Mais quand on dit « Ah, mais tout est impermanent », c'est vrai. Tout ce qui construit va se déconstruire. Mais on peut retirer quelque chose qui va faire que va avoir cet accès. Ouais, après, ben, il faut aller voir pour soi-même, c'est ça, encore une fois. Mais donc, il y a, c'est ce qu'on appelle le non-construit, le non-né, le non-fabriqué, le refuge, le réel refuge. Mais c'est pas dans l'identification, c'est pas dans « à moi, moi ». C'est très mystérieux, hein? On dit, par exemple, j'adore ce... On dit « il y a la souffrance ». Là, ça peut paraître très... Là, vous allez dire « wow, ça va... Ouais. » Mais c'est beau, il y a un aspect presque poétique pour moi là-dedans. Puis on voit que notre langage très conventionnel, il faut briser... Ça dit donc quelque chose comme il y a la souffrance, mais personne ne souffre. Il y a la souffrance, mais personne ne souffre. Il y a l'éveil, mais personne qui l'atteint. Mais il y a l'éveil. Il y a l'éveil possible, mais personne, c'est pas une personne qui l'atteint. Il y a la souffrance, mais personne ne souffre. C'est pas une personne qui souffre. C'est une méprise, c'est une... Waouh! Connaissez-vous l'histoire de Bahia? C'est une bonne histoire. Heureusement, j'ai pas le temps. Bahia. Toutes ces choses-là, on peut aller les revoir. Hein? C'est dans les textes. Bahia, le Bahia Sutta, l'enseignement sur Bahia. Et donc, Bahia, c'était quelqu'un qui était apparemment très, très sage, qui était très avancé dans sa pratique. Très avancé, tellement qu'il ne savait pas qu'il n'était pas éveillé encore. Il ne savait pas ça parce qu'il y avait tellement de sagesse. Puis très généreux, il enseignait, il partageait ses enseignements. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit « Je pense que vous n'êtes pas complètement éveillé. » Bon, s'il y avait un gros égo, ça aurait été très insultant. Comment, moi? Mais ben non, comme il était assez avancé, il n'avait pas d'énorme égo, il s'est dit « Mais waouh! » Et cette personne-là lui a dit « Je pense que vous n'êtes pas complètement éveillé. Je ne suis pas certain, mais je crois. » Et il y a quelqu'un qui a très loin, qui habite très loin dans une autre comté, qu'on dit qui est complètement éveillé, qui s'appelle le Bouddha. Alors Bahia se dit, mais je vais aller voir, faut clarifier ça. Et il part, je pense que c'est quelque chose comme 700 kilomètres où le Bouddha est, et il part, et il marche, et à la recherche du Bouddha. Et donc on peut s'imaginer, là, à l'époque, sans le RER, etc. Et il finit par trouver le Bouddha. Oui, oui, ah oui, il était là ce matin, il était juste ici, mais ben, il cherche. Et il finit par rencontrer le Bouddha. Et le timing n'est pas idéal parce que c'est genre midi moins quart ou 11h moins quart. Et le Bouddha, comme plusieurs des moines moniales, mange jusqu'à ce que le soleil atteigne le sommet du ciel, le zénith. Et ensuite, il ne mange pas jusqu'au lendemain. Mais là, il restait juste quelques moments. Et donc, Bahia va vers le Bouddha et lui dit « Pouvez-vous me donner un enseignement? Pouvez-vous me dire quelque chose qui va nourrir ma pratique? » Et le Bouddha dit « Bien sûr, Bahia, bien sûr, mais tout à l'heure, parce que là, il me reste juste quelques minutes pour aller chercher mon seul repas de la journée au village. Et donc, après, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. » Et Bahia, qui a une conscience accrue de la nature incertaine, instable, impermanente des choses, dit au Bouddha, juste un petit truc, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Juste un petit quelque chose. Ça fait longtemps que je vous cherche. Je vous trouve, donnez-moi un petit quelque chose. Puis le Bouddha dit, Bahia, tout à l'heure. Tout à l'heure, on va discuter. Et Bahia est très courageux et très... et dans les enseignements, ça revient. Quand quelque chose est demandé trois fois, c'est comme... Et il dit, s'il vous plaît, un petit quelque chose. Et le Bouddha ne peut pas refuser parce que la troisième fois. Et donc, il dit, OK, Bahia, voici. Il ne faut pas que je me trompe. Ce moment est tellement important. Il dit, Bahia, dans la vue, qu'il n'y ait que la vue. Dans l'audition, qu'il n'y ait que l'audition. Dans la conscience, qu'il n'y ait que la conscience. S'il n'y a pas de toi là, ou ici, ou entre les deux, ceci, rien que ceci, est la fin de la souffrance. Et il part faire le monde. Et l'histoire raconte que quelques minutes plus tard, Bahia est dans un accident avec un buffle et meurt. Et les gens se disent, mais mon Dieu, Bahia qui a fait tout ce voyage que vous avez cherché depuis des mois et il meurt juste au moment de vous rencontrer. Et le Bouddha dit, tout va très bien. Bahia a très bien compris ce que j'ai dit. Tout était réglé. Il pouvait, lui, entendre ça parce qu'il avait fait toute sa pratique derrière de telle sorte qu'en entendant dans la vue qu'il n'y ait que la vue, dans l'audition que l'audition, dans la conscience que la conscience, s'il n'y a pas d'appropriation, Bahia, ceci, seulement ceci, est la fin de la souffrance et de la confusion. La pluie est entendue. Le corps est ressenti. Un groupe se rencontre. Il y a la marche ou la tisane. Merci.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.